Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, le déséquilibre du pouvoir.
Oui, hier, 10 jours après le tollé suscité par les révélations du Times, l'ONG britannique Oxfam a fini par présenter ses plus humbles excuses au peuple haïtien et remis dans le même temps aux autorités de l'île son rapport d'enquête interne, jusque-là resté confidentiel, dans lequel sont consignées les nombreuses dérives de la mission humanitaire. Un mea culpa que beaucoup attendaient, même si en réalité, nuance ce matin, The Washington Post, ce scandale sexuelle n'est que la dernière des trop nombreuses humiliations infligées depuis des années à ce pays par ceux-là même qui prétendent lui venir en aide. Depuis longtemps, les Haïtiens savent en effet que l'intervention étrangère, qu'elle soit militaire ou caritative, a un prix à payer. C'est ainsi par exemple que l'occupation américaine de l'île entre 1915 et 1934 a certes permis de construire des infrastructures, mais elle a aussi créé une organisation militaire qui interférera dans la vie politique de l'île jusque dans les années 90. De même, l'invasion du pays par le président Clinton en 94 a certes rétabli au pouvoir le premier président démocratiquement élu de l'île, mais en retour, les États-Unis ont obtenu du président Aristide des concessions sur les droits d'importation qui ont détruit une grande partie de l'autosuffisance agricole du pays. Et que dire encore de ces casques bleus envoyés pour maintenir l'ordre après le tremblement de terre de 2010 et que l'on soupçonne d'être surtout responsable d'une épidémie de choléra qui a tué depuis des milliers d'Haïtiens. L'occasion aussi de rappeler qu'il n'y a pas que les organismes de bienfaisance qui ont été accusés de mauvais traitements en Haïti. L'an dernier déjà, parmi les centaines d'allégations à l'encontre des soldats de la paix, l'agence américaine Associated Press rapportait que des soldats sri-lankais avaient mis en place en Haïti un véritable réseau d'exploitation sexuelle. En fin de compte, analyse toujours le quotidien Washington, la question qui se pose aujourd'hui est celle du déséquilibre du pouvoir. Car les grandes organisations caritatives comme Oxfam ou les missions militaires de l'ONU opèrent non seulement avec un sentiment d'immunité totale, mais aussi en abusant de la déférence avec laquelle les accueillent leurs hôtes reconnaissants. Dès lors, il devient facile pour le personnel sur le terrain de profiter des jeunes hommes et femmes pauvres dont certains, par désespoir ou intimidation, n'ont d'autre choix que de vendre leur corps pour survivre. Et d'ailleurs, la liste des pays où ces actes ont eu lieu, Haïti, Tchad, Sud-Soudan, Libéria, ont tous en commun d'être en proie à la fois au chaos, mais également à la faiblesse des institutions et surtout à l'absence généralement de tout contrôle international. Voilà pourquoi le mieux qu'Haïti et d'autres puissent espérer aujourd'hui, c'est que cette vague d'indignation suscitée par le comportement de certains travailleurs humanitaires se traduira par de véritables réformes dans les pays d'où sont originaires les organisations caritatives. Pour sa part, Oxfam a annoncé qu'une commission indépendante enquêtera sur la culture de la prédation sexuelle au sein même de l'organisation et mettra en place des mécanismes pour prévenir de futurs actes délictueux. Mais si ces promesses n'aboutissent pas à des changements réels, alors les Haïtiens ne seront pas surpris lorsqu'éclatera le prochain scandale à la une des journaux.
Et puis Thomas, se méfier de celles et ceux qui veulent vous venir en aide. C'est également ce qui ressort d'une étude internationale récente sur le féminisme.
Oui, cette étude menée dans 32 pays, notamment rapporté par le quotidien Irish Examiner, révèle que seul un tiers des femmes se considèrent féministes, bien qu'une très large majorité d'entre elles défende l'égalité des sexes. Une réticence sans doute liée aux connotations complexes d'un terme encore mal perçu, explique le Courrier International dans un article de fond intitulé « Féministe, du mot qui dérange au mot de l'année ». Et de fait, selon le dictionnaire américain Merriam-Webster, « féminisme » est bien le mot de l'année 2017, ou plus exactement, c'est le terme qui a suscité l'an dernier le plus de recherches sur leur site internet, ce qui en soi apparaît plutôt comme une bonne chose, note The Chicago Tribune, si l'on considère que les gens sont curieux sur le sujet et qu'ils veulent apprendre. Pour autant, fallait-il vraiment attendre la misogynie de Donald Trump, la sortie du film Wonder Woman ou le mouvement MeToo pour s'intéresser à la théorie de l'égalité à la fois politique, économique et sociale entre les femmes et les hommes? Toujours est-il que le visage du féminisme est bel et bien aujourd'hui en pleine évolution. Il y a à peine 3 ans, le magazine Time proposait qu'on bannisse ce terme au prétexte qu'il valait mieux, selon lui, s'en tenir au problème d'inégalité que de se labelliser ainsi à outrance. À présent, le terme semble moins associé au féminisme radical. Son acceptation moderne et davantage synonyme d'émancipation. Et voilà pourquoi, conclut la journaliste de Chicago, les gens devraient l'utiliser en toute confiance, sans malveillance, mais avec fierté.
Et on termine, Thomas, avec le nouveau visage de la lutte anti-armes aux États-Unis.
Oui, la nouvelle passionnariat de la lutte contre les armes à feu se nomme Emma Gonzalez. À 18 ans, cette rescapée de la fusillade de Parkland a une colère non contenue et surtout une détermination sans limite. De sorte, écrit ce matin la correspondante du Temps, qu'on risque bien d'apercevoir son visage encore souvent. Dès demain, avec d'autres survivants, elle participera à un débat sur CNN où elle sera confrontée à des politiciens, parmi lesquels le sénateur républicain Marco Rubio, dont la campagne a été alimentée à coups de millions par la NRA. Ce même jour, Donald Trump lui recevra des rescapés. En fera-t-elle partie? Pour l'heure, la Maison Blanche se garde bien de donner des précisions. Toujours est-il que samedi dernier, accroché à son micro avec des larmes de colère et d'émotion, Emma Gonzalez a lancé « Si le président me dit en face que c'était une terrible tragédie et qu'on ne peut rien y faire, je lui demanderai combien il a touché de la NRA. Moi, je le sais, 30 millions de dollars divisé par le nombre de victimes par balle aux États-Unis rien qu'en 2018. Cela fait 5 800 $ par mort. Est-ce là ce que valent ces gens pour vous, monsieur Trump ?» Quoi qu'il en soit, à travers Emma Gonzalez, c'est donc désormais toute une jeunesse qui se mobilise et c'est la première fois que des rescapés d'une fusillade donnent autant de la voix et que les médias en font autant écho. Reste à savoir s'il s'agit là d'un véritable tournant.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.